série. Bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un cereal lover
ou un cereal eaters.
Bonjour les Sérivores, nous allons aujourd'hui vous parler avec David de la série culte de la télé française, puisque c'était à l'époque, on remonte là vraiment dans le temps, c'était à l'époque où il n'y avait encore pas beaucoup de chaînes, et puis qu'on découvrait un petit peu les séries américaines le samedi soir, c'était un peu la série à ne pas louper, et c'était la série Mannix, une série télé, comme je disais, qui nous vient des États-Unis, créée par Bruce Jenner, Richard Levinson et William Link, qui a fait les beaux jours, comme je le disais, de la télé française dans le style de détective privé, et qui est bien sûr devenue culte, et on verra qu'elle a inspiré de nombreuses séries par la suite. Tu peux nous parler un petit peu de cette série, David ?
Oui, c'est une série qui a été produite de 1967 à 1975, et on pourrait classer cette série donc comme policière. Elle est composée de 8 saisons, soit 194 épisodes de 50 minutes.
Donc une série quand même
qui a bien duré. Quoi.
Qui a bien duré, et comme on verra, bien sûr, à l'époque, c'était à l'époque qu'on faisait du saucisson. Et oui, les Français, on est spécialistes pour ça, puisqu'on verra que sur les 8 saisons, bah, les Français, on n'en diffusait que 6. Et puis tant pis pour les...
Ah, sympathique.
C'est à l'époque où on passait les épisodes pas forcément dans l'ordre, les séries pareilles, enfin les saisons. Enfin, c'était un petit peu... ça a changé d'horaire.
Oui, bah maintenant, on met une saison et puis on l'enlève de l'antenne, donc c'est pas mieux. Hein,
bah, disons maintenant, la différence, c'est que la saison est tournée et après, si ça marche ou ça marche pas, on la coupe. Mais à l'époque, c'était tourné et on la voyait pas, ce qui était encore pire. Dans cette série, c'est Joe Mannix, qui est un enquêteur au service d'une société qui s'appelle Intersect, une agence privée, dirigée par Lou Wickersham. Cette agence peut toujours compter sur tout un tas d'ordinateurs super puissants pour gérer les crises et obtenir des informations. Donc c'est petit détail, c'est assez rigolo de voir comment on concevait les ordinateurs à l'époque, hein, c'est des grosses machines. Pourtant Mannix, son meilleur agent, privilégie lui le terrain pour retrouver des personnes disparues, rechercher des objets volés ou démêler des affaires de corruption qui sont plutôt dans ses cordes. En raison de ses méthodes de vraie tête brûlée trop solitaire, le justicier au brushing impeccable entre très souvent en conflit avec son supérieur, dont la vision d'une affaire n'est jamais la même. Et puis, bah, on verra que par la suite, bah, il a décidé de monter sa propre agence privée. Comme ça, il n'aura que des problèmes avec lui-même. Eh bien, nous allons passer le fameux générique de la soirée que de nombreux auditeurs se rappelleront, puisqu'elle faisait, comme je disais, le samedi soir. Hein, c'était le prime time, comme on dit maintenant, du samedi soir. Les héros principaux et les acteurs qui les interprètent, c'est bien Mike Connors qui a joué Joe Mannix, le fameux détective. On trouve Gail Fisher qui joue Peggy Fair de 68 à 75. On retrouve Ward Wood qui joue le lieutenant Art Malcolm de 68 à 75. Tu peux nous parler des deux autres plus connus de la série ?
Il y a Joseph Campalena qui joue Lou Wickersham en saison 1 et Robert Reed qui joue le lieutenant Adam Tobias.
Voilà, donc ça c'est les personnages principaux. Il y a plein de petits personnages qui évoluent plus ou moins autour de ces héros principaux. Mais ce qui vous attend maintenant, c'est les anecdotes de la série. Alors, les producteurs se basèrent sur un concept dont le titre était Intertect. Le nom de l'agence de la série, la recherche du nom du rôle titre était longue, mais les producteurs pensèrent à Eddie Mannix de la MGM, Eddie Mannix, pour avoir le titre. Donc ils avaient copié sur quelqu'un qui existait vraiment.
Donc Joe Mannix s'était équipé d'un téléphone dans sa voiture pour l'aider dans ses enquêtes, chose très rare dans les années 70.
Dans la série, le héros conduit d'abord une Oldsmobile Tornado customisée, puis changea pour une Plymouth Barracuda, toujours des grosses bagnoles américaines, c'est assez impressionnant.
Il dispose également d'une impressionnante collection de blazers et costumes très différents et colorés pour entretenir son rôle séducteur auprès de la gente féminine.
Pendant les 8 saisons en plus, hein, donc vous imaginez le gros séducteur. Ouais. Alors Joe tient son sens du combat du fait que c'est un homme d'action et qu'il est ancien soldat de la guerre de Corée, ce qu'on apprend dans le film. Et Joe Mannix sera blessé 17 fois et assommé ou drogué 93 fois au cours des 8 saisons de la série.
Pas mal.
C'est impressionnant, hein. C'est pas l'homme qui valait 3 milliards, mais... C'est l'homme qu'on répare sans arrêt.
Mike Connors, lui-même, est un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale et aussi un grand sportif puisqu'il a joué au basketball et au football américain en high school and college.
Donc voilà, donc c'est ce qui explique qu'on avait choisi un peu Joe Mannix pour sa plastique et puis sa forme, hein, puisque c'était un ancien sportif de haut niveau. Et oui, il avait servi dans l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage de Lou Wickersham a été inspiré par Lou Wasserman, le chef de la MC Corporation.
En France, Mannix est apparu en janvier 1969 sur la première chaîne de l'ORTF. La série a notamment été rediffusée sur Antenne 2, TF1, Jimmy et Vivolta.
Donc vous voyez, comme je vous dis, c'est une série culte puisqu'elle est passée pas mal de fois à la télé. Dans Mannix, on retient le générique composé par Lalo Schifrin, également auteur de la fameuse musique de Mission Impossible. À l'image, la séquence est restée célèbre pour ses effets un petit peu en puzzle, donc qui était un style qui a été utilisé après dans pas mal d'autres séries.
Dans le générique, Mannix court sur le pont du Commodore Ambridge du port de Los Angeles qui a été détruit par la suite.
Donc vous ne pourrez pas prendre des photos et vous prendre pour Mannix.
Eh ben non.
Alors, d'origine arménienne, Mike Connors, l'interprète du célèbre héros de la série des années 60-70, Mannix était le cousin de l'un de nos plus célèbres chanteurs, Charles Aznavour. Ouais. Et donc, vous pourrez découvrir les liens de parenté méconnus des stars. En baladant sur Internet, on apprend plein de choses.
Bah, dis donc. Mike Connors était un fan et collectionneur aussi de voitures de collection.
D'où l'intérêt qu'il a dans le film d'avoir des belles voitures. Et c'est d'ailleurs... à cette occasion qu'il a été repéré lors d'une vente convention
de voitures,
il est tapé dans l'œil des réalisateurs et donc c'est comme ça qu'il a été un petit peu approché pour faire la série. Donc après le succès de Mannix, Richard Levinson et William Link, deux de ses créateurs, ont donné naissance à d'autres séries cultes comme Columbo et Arabesque. De son côté, Bruce Geller était devenu connu pour avoir lancé Mission Impossible un an avant la mise en production de ce nouveau héros.
Au terme de la première saison, le concept de Mannix a été modifié. Fini les ordinateurs d'Intersect, Joe Mannix devient détective à son compte. Il installe ses bureaux au 17 Paseo Verde à Los Angeles, juste au-dessus de chez lui, et embauche Peggy Frere, son assistante, la veuve de l'un de ses amis flics. Il s'agit de l'un des premiers personnages noirs américains de la télévision américaine. La production de cette nouvelle version a été confiée à Ivan Goff et Ben Roberts, futurs créateurs de Troll de Dame.
Vous voyez, hein, cette série a vraiment été un nid à futur succès. Alors, dans le rôle de la secrétaire de Joe Mannix, que, comme tu viens de le dire, eh bien, il y a Gail Fisher, qui fut une des premières actrices afro-américaines à jouer dans une série de façon régulière. Et d'ailleurs, sa prestation fut récompensée à 3 reprises, 2 Emmy Awards et un Golden Award. Et donc, oui, c'était un petit peu... une première, entre guillemets, puisqu'au cinéma, on avait eu déjà des acteurs comme Sidney Poitier, mais dans les séries, c'était une des premières afro-américaines à avoir un rôle récurrent et important dans la série.
C'est Michelle Nichols qui aurait dû être Peggy Frere, mais elle déclinera l'offre pour jouer la série Star Trek, où elle acquit la célébrité avec le rôle du lieutenant Uhura.
Donc vous voyez, on aurait pu avoir la spécialiste de Star Trek, mais non, tant mieux pour Peggy Frere, ça lui a permis d'avoir la notoriété et puis les récompenses qu'on a vu qu'elle a eues. Alors Joe Mannix avait un maquillage de lèvres corail pour faire ressortir celle-ci lorsque son personnage parlait. Donc vous voyez à quel point on met dans les détails. Hein. Maintenant c'est courant de faire les maquillages, mais là c'était dans le souci, dans le détail.
Hein. Le titre faisait référence à l'ombre, Shadows, qui sera utilisé 9 fois pour les épisodes au cours des 8 saisons.
Donc ça fait un petit peu comme les Mystères de l'Ouest avec la nuit 2. La nuit, là, c'est Shadows, c'était un petit peu, puisque c'était l'époque où chaque épisode, ça dépend maintenant les séries, c'est pas forcément chaque épisode a un nom, hein, ça dépend des séries, mais à l'époque c'était toujours évident de mettre un titre. Alors, Mike Connors, l'interprète du fameux détective Joe Mannix des années 60, accuse Paramount et CBS Studios de ne jamais lui avoir payé les royalties qu'il devait toucher sur ce show. À 83 ans, Mike Connors réclame donc son pourcentage de profit net sur la série lié à l'utilisation de son nom et la vente des produits dérivés prévus pour son contrat en 66. Paramount est également accusé de fraude dans le contrat, construit de façon à ce que les participants ne reçoivent jamais certaines compensations. Un porte-parole de CBS a signalé que la chaîne allait répondre à ses obligations et n'aurait le contrat de M. Connors, mais que ce procès était un mystère digne des compétences du détective Mannix, car avant que le dossier ne soit classé, Connors ne s'était pas manifesté et n'avait jamais rien réclamé. Bon, bref, c'est encore une histoire de gros sous, dont Hollywood et les major companies sont spécialistes, comme on voit hein, derrière l'entertainment et le show, il y a toujours une histoire de gros sous.
Après avoir servi pour l'US Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, Mike Connors, de son vrai nom Krekor Ohanian, fait ses études à l'Université de Californie. Il débute devant la caméra dans les années 50, tournant beaucoup pour Roger Corman, 5 fusils à l'ouest, Days the World Ended, et s'illustrant notamment au générique d'aventure dans le Grand Nord, aux côtés de John Wayne et des 10 commandements.
Donc on voit qu'il avait eu une petite carrière ciné avant de connaître la gloire avec Mannix. À la suite de l'arrêt de la production de Mannix, le toujours très apprécié Mike Connors a poursuivi sa carrière sur petit écran. Parmi les séries dans lesquelles il est apparu, il y a Les Incorruptibles, La Croisière s'amuse, L'As de la Crime, Police Story, Arabesque, Hercule et Mon Oncle Charlie. On peut le voir aussi, hein, on m'a parlé. C'est une de nos séries cultes avec David. Et avant de connaître le triomphe, en prenant donc les habits du détective, il avait notamment été l'un des héros de Tie Rope en 1959.
Mike Connors est décédé d'une leucémie le jeudi 26 janvier 2017 à l'âge de 91 ans.
Donc, mémorable quand même.
Le 4 octobre 1971, lors de la quatrième saison de la série, Here's Lucy, le personnage de Lucy Carter engage Joe Mannix pour lui servir de garde du corps contre les bandits. Dans cette sitcom, Mike Connors interprète son personnage de façon comique. Il s'agit d'une première puisqu'on peut parler de passage transgenre d'une série dramatique à une série comique. L'épisode est intitulé « Lucy and Mannix are held hostage » et il est à noter que Peggy n'apparaîtra pas dans cet épisode. Lucy est interprétée par la comédienne Lucille Ball.
Oui, comme quoi, de temps en temps, on a envie de délirer un petit peu et de rendre moins sérieux les personnages et des fois ça réussit.
Puis l'un dans l'autre, hein, ça peut être sympa.
Oui. Le 13 février 1997, lors de la quatrième saison de la série Diagnostic Meurtre, Joe Mannix résout une ancienne affaire avec l'aide du docteur Mark Sloan dans l'épisode intitulé 20 ans après, avec Julie Adams et Pernell Roberts, acteurs de l'épisode 4 de la saison 7 de Mannix, la petite fille. Donc on retrouve des acteurs qui vont se balader dans la série à travers les ans.
Et le doublage était assuré au début par des acteurs français, principalement Pierre Hatté, remplacé ensuite par des acteurs canadiens, dont Luc Durand, pour des raisons économiques.
Et oui, ça se faisait beaucoup à une époque. Les Canadiens étaient moins chers que les Français. Et donc, à l'époque, ça s'entendait des fois un petit peu sur pas l'accent, parce qu'ils arrivent pas mal à se débrouiller, mais c'est les expressions, des fois. Donc, il y a pas mal de petites expressions canadiennes qui sont assez marrantes. Et des fois, on se dit « qu'est-ce qu'il a dit ?» Les deux dernières saisons n'ont jamais été diffusées en France, comme je disais tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment une hérésie.
La série s'arrêtera au bout de 8 saisons et elle est remplacée par des séries comme Canon, où les héros utilisent plus leur sens de déduction que la force physique.
En effet, cette série est taxée d'être un petit peu trop violente. Nix avait plutôt de tendance à régler les affaires à coups de poing et à coups de pied et un petit peu violente. Donc, c'est pourquoi on verra qu'il a été passé de mode, hein, les héros à la Clint Eastwood, ça reviendra un petit peu plus tard. Mais bon, là, on a décidé à un moment de calmer un petit peu le jeu et de changer avec des héros un petit peu plus intellectuels. Alors les récompenses, comme on l'a dit tout à l'heure, Emmy Award 70 de meilleur second rôle dans une série dramatique pour Gail Fisher et deux Golden Awards en 1970 et 71 du meilleur acteur d'une série dramatique pour Mike Connors en 70 et en 71, meilleur second rôle dans la série dramatique pour Gail Fisher. un Golden Globe Award en 72 de la meilleure série dramatique, un Golden Globe Award 73 du meilleur second rôle d'une série dramatique, donc pour Guy Fisher, et elle garde le statut de la première actrice afro-américaine à recevoir cette récompense américaine de cinéma et de télévision. Donc Mannix, comme vous le voyez, était une série très appréciée, non seulement du public international, mais aux États-Unis, elle a eu son heure de gloire et elle fait partie des séries cultes. C'est pour ça qu'on en parle dans Sérivore. Eh bien David, je crois que tu nous as trouvé un extrait de la série.
C'est qu'une baignoire à la maison est aussi un objet fort dangereux. Ah Mannix, il faut nous excuser si le duel vous a effrayé.
Oh, il m'en faut plus que ça.
Alors on essaiera.
Votre numéro a l'air d'être bien réglé.
Et sachez que c'est mon œuvre. Eh, Pete, c'était mon idée.
Oui, c'est vrai, Pete.
Je parlais de l'autre scène.
Quelle autre scène?
La fausse amitié. Si l'on sait que votre femme s'est donné la mort et que c'est la faute de cet homme...
Si ça n'avait pas été pour Mitch, je l'aurais fait pour un autre gars. Elle avait ça dans l'idée.
Vous avez compris, Mannix?
J'ai compris que vous avez de la chance. Mais je me demande ce que vous avez dans le ventre. Ce que vous avez là, de la sûre. La femme de votre ami se suicide par amour de vous, et vous avez l'air parfaitement flatté. L'existence ne représente rien pour vous?
Oh, mais si, elle représente énormément, Mannix. Mon existence. Parce que je n'ai que ça. Si vous laissez votre existence dans les mains d'un autre, alors vous n'êtes plus le maître. Il en fait ce qu'il veut, quand il veut. Vous êtes déjà mort. Vous ne valez plus rien. À quoi bon suicider alors? Ça n'a aucune sorte d'utilité. Soyez persuadé, Mannix, que je tiens mon existence plus que vous ne croyez. Allez, viens, allons-nous en dissiper.
Alors, le plus et les originalités de la série, ben j'ai mis une héroïne afro-américaine en héroïne récurrente de la série. Et ça a été heureusement récompensé, et puis ça faisait du bien hein, de voir cette diversité qu'on ne voyait pas trop à la télé, où c'était des rôles stéréotypés, et là, de voir des gens afro-américains qui avaient un rôle. Bon, ça a un petit peu ouvert la porte après à plein de séries où les héros sont même soit des afro-américains, des asiatiques. Mais c'était un petit peu la transition hein, de maintenant, c'est tout à fait courant, mais ça a été un long et dur combat avant d'avoir toutes les ethnies représentées, qui représentent les États-Unis, parce que c'est vraiment un melting pot. Et donc, c'est bien qu'il y ait eu des séries comme ça pour enfoncer les portes. J'ai mis aussi un héros un peu casse-cou et direct. Bon, maintenant, ça ne choquerait plus du tout, parce que quand on voit les séries, on est passé à une violence beaucoup plus évidente, hein, quand on voit des séries... je parle pas non seulement les séries médiévales, bon, on savait qu'à ces temps-là, ou dans la Rome antique, ça fritait sec, à coup de, comment ça s'appelle, d'armes blanches, mais là, on voit des séries, je pense à Warrior, entre guillemets, ou d'autres séries de science-fiction qui sont beaucoup plus violentes, et donc c'est vrai, autre temps, autre mœurs, mais bon, c'est comme ça, il faut le voir. Le moins de la série, ben j'ai mis une série qu'on trouvait violente pour l'époque. Alors moi, ça m'a fait, ouais, ça, comme je viens de le dire, ça me fait doucement rire. Ce qui me choque un peu plus, mais qui ne l'était pas à l'époque encore dans les années 70, c'est le côté un peu macho qu'on retrouve un petit peu dans les James Bond de l'époque. Hein. C'est vraiment le super séducteur. Et heureusement qu'il y a Guy Fisher qui jouait un rôle important, récurrent dans la série, et d'une femme qui avait un rôle assez puissant. Parce que c'est vrai que le côté macho-man américain, séducteur, c'était vraiment le cachet de série de ces années-là. Alors si vous avez aimé... Eh bien, j'ai mis Mike Hammer, les séries télé, puisqu'on a une première dans les années 60, et puis celle qui est plus connue, qui s'est déroulée en trois parties, puisqu'il y a Mike Hammer, le nouvel Mike Hammer. Je ne sais pas si vous avez vu Ecstasy Kitsch. Alors, on retrouve bien, on va en parler un petit peu, je ne vais pas trop développer maintenant, parce qu'on va en parler par la suite. Canon, la série donc, qui a remplacé un petit peu Mannix à la télé, donc avec un flic... un petit peu plus utilisant ses méninges que ses poings et les coups de boule. L'Homme de Fer, une série télé. Alors là, c'est pareil, c'était où il y avait un héros handicapé, hein, puisqu'il était à l'époque en chaise roulante et avec deux associés. Magnum, la série télé hein, qui a fait les beaux jours de Tom Selleck. Hawaii Five-O, donc un peu le polar, mais version dans les îles. Et puis Barnaby Jones, c'est une série télé anglaise où on voit les détectives. Je ne vais pas te citer toutes les séries détectives, on en parlait tout à l'heure aussi d'Arabesque. Voilà. Mais bon, on voit que Mannix a ouvert la porte à tout un tas de séries. Et puis le but de Mannix, c'est de protéger un maximum tous les faibles et les orphelins. Coup de cœur sérivore. Eh bien, Mike Hammer, dont on a parlé juste avant, le Mikey Spillane, Mike Hammer, dans le titre original, une série d'enquêtes policières américaines, dont la première série a été dans les années 60, mais moi, celle que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est celle qu'on a pu voir plutôt entre 84 et 98, hein, comme je l'ai dit, déclinée un petit peu différemment, puisque le héros ne changera pas, c'est Stacy Keach qui va jouer le rôle titre dans toutes les trois séries à venir, mais par exemple Velda, qui est sa secrétaire, changera d'actrice. Sorti tout droit donc de l'imagination de l'écrivain Mickey Spillane, le détective privé new-yorkais Mike Hammer mène l'enquête. Alors c'est un séducteur de femmes, hein, tiens, on reconnaît un petit peu la patte de, de Mannix, dans la série dont on a parlé avant, et à la gâchette facile. Donc lui aussi, c'est quelqu'un qui va utiliser plus les poings et son pistolet, et bien qu'il sait aussi utiliser la déduction, c'est pas un mauvais détective privé. Il peut compter sur le soutien de sa fidèle secrétaire, lui aussi, qui s'appelle la Velda, une belle secrétaire, et son inséparable Mustang bleu de l'année 66, et surtout son pistolet qu'il appelle Betsy, ainsi que le visage. Voilà, donc moi j'ai trouvé cette série un petit peu parodique, c'est assez marrant parce qu'en fait, voilà, toutes les femmes sont séduites par Mike Hammer, donc c'est assez marrant. Et avec la police, il a toujours un rôle un petit peu ambigu, on ne sait pas s'il est copain avec eux, s'il est plutôt un bâton qu'on leur remet dans les roues. Mais bon, la collaboration, même si parfois elle est très difficile entre certains, puisque chacun ne donne pas les informations à l'autre et vice-versa. Donc, j'ai trouvé cette série assez sympathique. Et puis, je vous engage à redécouvrir Mikey Spillane, qui était quand même un des grands du polar noir américain. Je ne sais pas si tu as vu cette série, David, et si tu...
Si, bah, j'en ai vu quelques épisodes quand j'étais plus jeune. Ouais. C'était léger, c'était...
Fin de ce Sérivore numéro 99, consacré bien sûr à Mannix et aussi à Mike Hammer en découverte. J'espère que vous avez aimé cette émission, que vous avez concocté avec David. Et retrouvez-nous bientôt sur Radioactive pour un nouveau Sérivore. En attendant, continuez à dévorer les séries sans modération. Bye bye!
Série. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un serial lover
ou un serial eaters.